Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Il est Noir sur le 102.2 de Radio Canu et c'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes. À tout de suite. Eh bien, rebonsoir donc à toutes et à tous. Il est 20h et quelques minutes et on va commencer donc cette émission, cette nouvelle émission, par deux informations, enfin deux annonces exactement, qui nous concernent d'ailleurs, puisque ça sera pour le samedi 14 mars à 15h, donc ce samedi, où les militants et les militantes de la CGA, la coordination des groupes anarchistes, vous proposent une projection, discussion autour du film « No ». No, comme no, et no.
Voilà. Ça veut dire non, voilà.
Ça veut dire non, voilà. Et donc ça, pour résumer un petit peu cette projection, qui sera suivie d'ailleurs d'une discussion avec une camarade qui est donc présente en délégation officielle au Chili au moment du référendum. Voilà, donc elle est férue sur l'affaire. Alors cette histoire donc de ce film No, ben c'est tout simplement lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence. Les dirigeants de l'opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Donc voilà, le film tournera autour de cette histoire. Et ensuite, eh bien, il y aura cette discussion avec cette camarade donc chilienne qui était là, qui était donc présente au moment du référendum. Donc c'est ce samedi 14 mars à 15h, à bien noter donc dans vos agendas. Et puis là, c'est un peu plus tard, ça sera un autre samedi, donc le samedi 28 mars. J'ai donné l'heure, je ne sais pas si j'ai donné l'heure. Oui, c'est à 15h samedi, hein, 15h donc à la Plume Noire, 8 rue Diderot, dans le premier arrondissement de Lyon. Et puis donc ce prochain samedi 28 mars, toujours à 15h à la librairie La Plume Noire, 8 rue Diderot, eh bien ça sera une discussion, un débat sur et une rencontre avec les membres de la coordination donc des groupes anarchistes autour de la publication de leur brochure Crise, qui est en vente d'ailleurs à La Plume Noire. Et donc il y aura une grosse discussion d'après cette brochure. Donc pour dire simplement que l'objectif de cet ouvrage est de proposer une analyse de la crise, de ses conséquences, qui soit accessible donc à tous et à toutes, pour permettre à chacun et à chacune de se doter d'outils pour décrypter le discours dominant sans se laisser embobiner.
Voilà donc. Bien. On va rajouter une petite annonce, et aussi cette semaine, c'est vendredi. C'est nos camarades de la Fédération anarchiste, dont le groupe Graines d'Anard, hein, de Lyon, qui organise à la MJC Mon Plaisir, donc avenue des Frères Lumière, hein, à Lyon, à 18h30, donc vendredi, une conférence débat avec l'ami Philippe Pelletier, donc un universitaire de camarade anarchiste
de grande classe
de Saint-Étienne, un spécialiste d'ailleurs de la géographie, entre autres, qu'on connaît bien. Et donc le thème, c'est anarchisme vent debout, idées reçues sur le mouvement libertaire. Voilà, il nous parlera un petit petit peu de l'anarchisme comme conception politique qui est probablement la plus méconnue et avec tous les toutes les idées reçues qu'il peut y avoir autour de l'anarchisme. Donc voilà, c'est nos camarades du groupe de Lyon de la Fédération, enfin le groupe Graine d'Anard de la Fédération anarchiste de Lyon. Allez, un peu de copinage, ça fait pas de mal. Fin des annonces, on va peut-être passer une première pause musicale.
Absolument, c'est prévu comme ça. Alors on va passer le groupe Toxic West.
Voilà, donc déchets West. Toxiques, hein,
déchets groupe toxiques, lillois. Voilà, je l'apprends, voilà. Et le morceau, le titre du morceau sera Contrôle mental. Là, c'est parti.
Chaque fois que je dis compris, je veux que tout le monde dise oui, chef. Compris?
Oui, chef.
J'entends rien.
Oui, chef.
J'en crois pas mes yeux. À quoi avez-vous passé votre vie? À écouter de la musique punk rock et à débiler votre pays, je parie.
C'était le groupe Toxic West qui existe voilà. Toujours d'ailleurs, je ne sais pas.
Ah non, ils n'existent plus Toxic West. Ah non. Bah attends. Donc... Ah, il me semble que ce que t'as dans les mains, c'est l'anthologie, hein, couvrir les années 98 à 2004. Hein, voilà, oui. Donc si c'est 2004, c'est que ça s'arrête en 2004. Hein, voilà,
d'accord. Bien, vous êtes toujours à l'écoute, bien sûr, et de Idées Noires. Hein, émission de la CGA, la coordination des groupes anarchistes. Je vais y arriver.
On va y arriver, ouais.
Et on va passer une première page.
Ouais, une première page politique et sociale et économique dans l'Hexagone, pour pas dire la France, parce que nous, on s'en fout des frontières. Bon, il y a eu un accident d'avion, mais il n'est pas très drôle celui-là, parce que...
D'hélicoptère.
D'hélicoptère, parce que moi, j'aime bien les accidents d'avion, mais cette fois-ci, il n'y a ni patron, ni ministre, ni militaire qui s'est craché la gueule, donc c'était un peu moins intéressant. Voilà, mais apparemment, c'est une journée de deuil national, on s'en fout un petit peu. Quand même, c'est des sportifs ou je ne sais quoi qui sont écrasés au sol. Allez, on va parler de l'éducation nationale, et plus précisément. Alors, on va pas parler de l'annonce qu'a faite la ministre Najat Vallaud-Belkacem aujourd'hui sur sa grande réforme du collège qui va pas changer grand chose, en tout cas, enfin, qui est promise, mais en attendant, il y aura les élections, puis peut-être des changements de cap ou d'équipe au gouvernement, on sait jamais, vu comment les socialistes, enfin, les prétendus socialistes sont dans la merde. actuellement. On va revenir un petit peu sur l'affaire des journées de retrait de l'école. Alors, qu'est-ce donc les journées de retrait d'école ? C'était une invention de l'extrême droite hein, française, extrême droite réac, pour lutter contre le gender à l'école. Vous savez, cette accusation comme quoi, alors ils avaient colporté les rumeurs comme quoi à l'école on allait apprendre aux enfants à devenir des homosexuels et des lesbiennes, etc. Leur apprendre à se masturber, enfin une horreur. C'est évidemment dans la foulée des manifestations, la manif pour tous, pour toute cette frange française homophobe, réactionnaire, etc. Là, c'était Farida Belghoul qui était animatrice de ces journées de retrait d'école, qui consistait à dire on arrive à coups de rumeurs et de n'importe quoi, on demande aux parents de pas envoyer leurs enfants à l'école pour protester contre l'introduction du gender à l'école. Je rappelle que ça n'existe pas, la théorie du genre. Il y a des théories, des études de genre hein, qui analysent le genre. C'est ce que nous on appelait plus ou moins autrefois hein, le sexe social, c'est-à-dire il y a une différence entre le sexe biologique et le vécu social, la capacité sociale des individus. Et il est bien évident que c'était patriarcal comme la nôtre. Hein, les femmes en particulier et ceux et celles, je pense aux LGBT, aux trans, etc., qui sont plus ou moins assimilés à des femmes, sont considérées comme étant des citoyennes de seconde zone, même si formellement elles ont autant de droits, elles sont quand même plus exploitées. Il y a quand même des relents patriarcats dans cette société. Donc c'est toute cette analyse hein, qui tente à décrypter ces processus de domination et ces différences entretenues entre les individus sous prétexte soit de leur sexe biologique ou sous prétexte de leur orientation sexuelle. J'appelle que pour nous anarchistes, hein, quel que soit le sexe biologique et ou l'orientation sexuelle des individus, ça ne doit pas influencer sur leur capacité sociale et politique. Nous réclament l'émancipation, évidemment, et le libre choix de chacun et chacune de sa sexualité. Donc, cette frange réactionnaire que nous détestons cordialement avait lancé cette opération. Il faut se souvenir que cette Farida Belghoul, c'est pas une inconnue, hein. Elle est très liée, elle est même plus que liée, hein, elle est liée au milieu complotiste, antisémite, fasciste, de Dieudonné, Soral, etc., des franges les plus extrêmes du printemps français, hein. Vous vous souvenez de ces manifs homophobes il y a ces dernières années. Là, c'est une information que vous retrouverez sur La Rotative, qui est l'excellent site, hein, qui ressemble un peu au site Rébellion, mais sur la région Tourangelle. Il y avait une affaire à jouer les tours où les JRE, hein, donc son collectif, avait publié une vidéo diffamante concernant une institutrice de l'école Bloiterie de Jouer-les-Tours avec des mensonges et des insanités pour faire pression. Évidemment, tout ça, c'était faux. L'affaire a suivi son cours. Là, on apprend, c'est nos camarades de Sud-Éducation 37, donc Indre-et-Loire, qui nous apprennent que cette dite Farida Belghoul, enfin, a été mise en examen, waouh, par la justice, pour complicité dans un délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public. Alors, nous, la Suisse bourgeoise, on n'y accorde pas beaucoup de crédit, mais quand elle s'attaque au réac, pourquoi pas, hein, qui se tape dessus, c'est pas plus mal. Donc, nous, on se permet, avec nos camarades, de revenir sur un certain nombre de choses. Cette vidéo est accompagnée de commentaires injurieux, voire même de menaces de mort dans les commentaires. Et cette vidéo diffamante est malheureusement encore toujours disponible, mais cette fois-ci sur le site de la Fédération Autonome des Parents Engagés Courageux, parce que Farida Belghoul, non seulement après avoir monté cette opération Journée de Retrait d'École, qui a plus ou moins été un flop, elle s'est dit on va essayer de foutre la merde dans les écoles et introduire dans les conseils d'école des parents bien réac, et ils ont monté une fédération de parents d'élèves qui rassemble à peu près tout ce qui peut se faire de réactionnaire en France, tout ça pour investir l'école et s'attaquer frontalement aux valeurs, on va dire aux valeurs républicaines hein, de l'école. Je vous rappelle que c'est quand même une sale réac, elle est aussi qui prône hein, hein, pas une pédagogie, mais une volonté d'en finir totalement avec l'école. Hein. Elle-même n'envoie pas ses enfants à l'école. Elle estime que l'école, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que l'école fait de l'éducation, alors qu'elle voudrait qu'il ne fasse que de l'instruction, juste apprendre à lire, à compter. Effectivement, l'école, en plus d'apprendre à lire, à compter, transmet des valeurs aux élèves. Alors, c'est les valeurs de la République, hein, mais une autre école transmettrait aussi d'autres valeurs. Une école libertaire transmettrait, en plus d'apprendre à lire, à compter, des valeurs certainement plus d'entraide, d'autogestion, etc. Chose que refuse évidemment toute cette frange réactionnaire qui estime que les enfants appartiennent aux parents et que surtout d'autres adultes ne doivent pas interférer dans l'éducation. D'où cette idée-là. Donc voilà, donc cette Farida Belghoul qui en plus elle est enseignante, hein, quand même assez drôle. Elle est apparemment en arrêt, elle est censée être en arrêt maladie depuis la rentrée, sauf qu'elle s'est fait toper parce que malheureusement elle est en arrêt, mais en septembre elle s'est rendue à un congrès réactionnaire international qui avait lieu en Russie. Elle s'est fait toper parce que finalement son administration rectorale, hein, ses patrons se sont rendus compte qu'elle était censée être en arrêt maladie, mais comme elle se baladait à l'étranger, donc elle s'est prise une sanction disciplinaire. Oh, déjà, et là en plus elle a un procès au derrière pour diffamation, menace, etc. envers une fonctionnaire. Donc c'est une affaire sordide, diffamatoire. Bon, la justice, elle va mener son cours ou pas, hein, comme d'habitude. Nous, évidemment, on soutient les travailleurs et travailleuses de l'éducation nationale, hein, on le réaffirme. On les soutiendra, on va pas laisser les réactionnaires s'emparer de l'école et la détruire. Et ben on vous tiendra plus avant si elle se fait condamner. On va rester dans la région Tourangelle, toujours merci la rotative info, et à Notre-Dame-d'Oé, on va parler de grève et de mouvement dans le BTP, bâtiment travaux publics. Je sais que tu aborderas la question tout à l'heure du BTP dans la région parisienne, hein. Pareil sur le BTP dans la région parisienne, il y a une excellente interview que vous trouverez cette fois-ci non pas sur Rotative mais sur Paris Lutte Info, qui est encore un peu l'équivalent de Rébellion, mais sur la région parisienne, avec une analyse des derniers mouvements de grève dans le BTP à Paris. Là, c'est Notre-Dame-d'Oé, c'est grève dans l'entreprise Pieux Ouest. Hein. Bon, c'est Pieux Ouest, ça pourrait être n'importe quelle entreprise, parce qu'au travers de ces témoignages, je ne vais pas lire en entier, on va revenir sur certains aspects, c'est évidemment le quotidien de tous les travailleurs et travailleuses, même si c'est majoritairement des travailleurs, on le sait, hein. Du BTP. Et donc c'est l'interview avec Najim, qui est délégué du personnel et membre du syndicat local La Construction CGT, à propos des conditions de travail dans l'entreprise et des luttes en cours. On verra, hein, dans notre rubrique, que c'est à peu près les mêmes conditions de travail partout. Donc il faut savoir que lui, il est chef d'équipe, hein. Il est payé, comme tous les chefs d'équipe, 12 euros de l'heure, alors qu'en réalité, dans les faits, ils font un véritable boulot de chef de chantier, c'est-à-dire qu'ils coordonnent tout, hein, alors qu'ils sont censés diriger que leur petite équipe. Bah, en fait, l'entreprise leur laisse carrément tout faire et les paie des roubignoles, hein, uniquement leur salaire de chef d'équipe. Ils sont plutôt entourés, évidemment, il y a recours massif à la main-d'œuvre précaire, donc aux intérimaires. Hein, pour un chef d'équipe, il y a en général deux intérimaires. On voit le ratio, et évidemment, il n'est pas question d'ouvrir des CDI à ces intérimaires. Hein. C'est l'entreprise est toujours là, eh ben non, ça coûterait trop cher, on ne peut pas, la conjecture, patati patata. Et puis, il y a les conditions déplorables de tous les jours, notamment, qui ont été dénoncées, hein, notamment par ce camarade-là et d'autres de la CGT, parce que sur la plupart de leurs chantiers, il n'y a ni vestiaire, il n'y a pas de sanitaire, hein, on ne peut pas aller pisser, ou alors faut aller dans un troxon dans le coin. Alors la direction a dit bien, ben oui, mais bon, si vous voulez prendre un café, on vous remboursera vos notes de frais, mais elles seront remboursées qu'à la fin du mois, et en attendant, ben voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi se réchauffer, il n'y a pas de vestiaire. Souvent, les travailleurs et travailleuses sont obligés de s'entasser dans une camionnette pour se changer quand ils en disposent d'une. Évidemment, il n'y a quasiment pas de douche, etc. Tout ça, bien sûr, c'est totalement illégal, parce que la législation du travail prévoit de toute façon qui est tous ces tous ces accommodements. L'employeur doit mettre à disposition des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance, etc., des douches, ce que ne fait pas cet employeur. Donc ça fout en l'air le quotidien des travailleurs. En plus, il y a la question des indemnités de grands déplacements, c'est-à-dire que évidemment c'est des chantiers. Là, cette entreprise, elle est sur Notre-Dame-d'Oé, mais fait des chantiers un peu partout, notamment en région parisienne. Donc ça fait quand même assez loin. Ils ont des indemnités, 73 euros d'indemnité par jour de déplacement. Hein, c'est quand même sachant que les chantiers sont souvent en région parisienne. On sait le coût de la vie en région parisienne. Alors 73 euros là-dessus, il faut prendre les hôtels. Il faut payer l'hôtel là-dessus. Il faut payer la bouffe. Il faut payer l'hôtel. Avec des chambres d'hôtel, c'est minimum 50 à 60 euros la chambre en région parisienne, hein, pour vraiment un boui-boui quasi infect. La direction répond « Oh ben, de toute façon, vous n'avez qu'à vous partager, dormir à trois dans une chambre d'hôtel privée une seule personne. » Bravo, formidable, très bon esprit. Encore une belle façon de s'occuper de ses salariés. Et malheureusement, c'est ce que font souvent les travailleurs, qui se disent bah, « voilà, ben, on va gratter sur nos conditions ce qu'on appelle les conditions de la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire les moments où en fait tu te reposes pour refaire ta force de travail pour pouvoir rebosser le lendemain, donc dormir, manger, etc. Mais souvent ils dorment dans des camtars, ils s'entassent pour gratter l'argent pour arrondir un peu leur fin de mois avec leur salaire lamentable. Donc évidemment ça brasse depuis des années dans la boîte, et là ça a commencé à râler, d'autant plus que les quelques camarades se sont dit « Eh bien, ce serait peut-être temps qu'on ait des représentants élus du personnel dans une boîte assez importante pour en avoir. » Alors le patron a dit « Oh là, c'est compliqué, vous savez pas faire, gna gna gna, il y a moyen de s'arranger autrement. » D'ailleurs, il y a le patron qui dit texto lui-même comment on lui procède. Hein. C'est quelque chose qu'on connaît bien avec nos tauliers, nos patrons, nos patronnes. Hein. Je cite « Un mec, tu lui dis jamais non, sinon il te vole dans les plumes. Tu lui réponds, je vais réfléchir. » Quand un mec, un travailleur ou une travailleuse demande, pose une question revendicative sur pourquoi on n'aurait pas droit à ça. T'as gagné un mois. Quand il revient te voir au bout d'un mois et demi, tu lui dis « Ah merde, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. T'as regagné un mois. » Et après, tu lui donnes des miettes et il le prend. Et il se dit que quand même, il a obtenu quelque chose. Voilà, les méthodes de gestion, on reconnaît. Ça nous fait penser à pas mal de patrons qu'on peut avoir, être patronne autour de nous. Voilà. Donc évidemment, ça commence à aiguler, notamment les camarades de la CGT qui ont imposé de véritables élections professionnelles pour avoir des représentants, des délégués du personnel présentés par les syndicats. Évidemment, le patron a tout fait. Hein. Il a même appelé individuellement au téléphone tous les employés pour leur dire surtout votez blanc au premier tour pour pas voter pour la liste syndicale. Voilà, ça c'est aussi des pratiques assez courantes dans le monde du travail. Hein. Toutes ces pressions qui sont faites auprès des salariés pour les empêcher de s'organiser ou de se faire représenter par leur syndicat. Mais ça a échoué. Ils ont quand même été élus. Donc un délégué, un suppléant. Et comme bien souvent, le délégué titulaire, il se fait emmerder. Et donc, il y a des pressions énormes pour essayer de le virer pour tout et n'importe quoi. Hein. À chaque fois, on va balancer les prétextes les plus bidons, travail mal fait, etc. On le met sur des chantiers infects, on le met dans une situation de travail où impossible à gérer pour le pousser à la faute, pour essayer de le pousser à la porte. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il porte les revendications des salariés de la boîte. Et ça fait chier le patron qui aime bien sa vieille méthode où c'est lui qui balance ce qu'il veut et surtout qui file rien aux travailleurs et travailleuses. Et donc du coup, il y a une grève qui a été lancée, il y avait déjà eu des débrayages, mais là, un lundi matin, il y a 12 ou 13 chefs d'équipe qui sont filés en quart, et là, ils ont discuté toute la matinée, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la même expérience, le même vécu au travail, les mêmes conditions déplorables, ils ont décidé de débrayer et puis de faire piquer devant la boîte. C'était une véritable... c'était vraiment... nouveau quoi. Donc voilà, donc lutte dans le première grève en cours dans cette entreprise à Pieux Ouest, à Notre-Dame-d'Oué. Et finalement, la direction, elle a fini par commencer à ouvrir des négociations en demandant l'arbitrage de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la fameuse directe hein, qui regroupe les services où il y avait auparavant l'inspection du travail, les services de la répression des fraudes, etc. On ne sait pas encore ce que ça va donner, parce que le conflit de négociation sont en cours, mais en tout cas, et ça c'est important, c'est la reprise d'une vie syndicale, donc d'une vie où les travailleurs entre eux discutent avec leurs représentants de leurs conditions de travail, se battent et essaient d'avancer leurs revendications. C'est toujours une bonne nouvelle, on verra que ça se passe aussi dans la même façon en région parisienne. On va continuer, mais cette fois-ci sur la question des sans-papiers, avec la belle connerie des sénateurs de la semaine dernière. Hein. C'était autour d'un Albanais sans-papiers en France. Alors c'était un jeune mineur isolé, hein, qu'on appelle, qui était titulaire d'un CAP à Saint-Étienne, CAP de menuiserie, voilà, qui maintenant inscrit en bac pro dans un lycée à Rouen, c'est dans nos belles contrées, et comme bien souvent, il s'est fait repérer par les flics et il s'est pris une OQTF, une obligation à quitter le territoire français. Sauf qu'entre-temps, ce jeune travailleur, parce que c'est un jeune travailleur, hein, il est ce qu'on appelle en formation initiale, eh bien, il a été reconnu meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France, dans sa spécialité, la menuiserie. Alors, les meilleurs ouvriers de France, une société des meilleurs ouvriers de France, hein, dans tous les secteurs d'activité, correspond à peu près à tous les CAP, etc., tous les apprentissages, il y a tous les ans des concours pour désigner le meilleur ou la meilleure, ça dépend des secteurs évidemment, ouvriers et ouvrières de France. Malheureusement, c'est encore un patriarcat, parce que même quand c'est une ouvrière, elle a un titre de meilleur ouvrier de France. Ils ne sont pas encore passés la féminisation, malheureusement. Et le Sénat, qui est quand même une chambre avec des sénateurs, etc., qui est là, oui, l'économie, c'est bien, ces petits jeunes qui travaillent dur, etc., il faut les récompenser, avait prévu une cérémonie glorieuse avec les 338 médaillés d'or de cette année au Sénat pour décerner la médaille. Là-dessus, la société des meilleurs ouvriers de France, elle appelle le jeune travailleur Armando en lui disant: bon, écoute, vu que t'es sans papier, ça la fout mal, tu peux pas aller au Sénat parce que t'as pas de papier français, t'es pas vraiment un citoyen, ça fout la zone, donc t'y vas pas. Voilà, brambla de combat, ça foutu un pseudo merdier, un politique. Alors à peu près tout le monde a dit plus ou moins n'importe quoi, de l'extrême droite Le Pen qui a commencé à dire: oui, comment ça se fait qu'il y ait autant de sans papier parmi les ouvriers de France, il y en a un parmi 338, c'est quand même pas énorme. D'ailleurs, nous, on rappelle qu'on s'en fout complètement que des gens viennent étudier et qu'ils soient nés ou pas en France. Hein. Nous, on est pour l'abolition des frontières, la libre circulation, la libre installation sur le territoire géographique de l'Hexagone. Et si les jeunes veulent venir profiter du système scolaire et d'une bonne formation initiale dans des spécialités comme la menuiserie, eh ben qu'ils viennent, notamment qui réussissent. Bon, au final, le Sénat finit par dire oui, il pourra quand même venir serrer la louche par l'archer, le président du Sénat, recevoir sa médaille, la République est sauve, mais quand même, il a toujours son OQTF au derrière, hein, c'est-à-dire qu'il est reconnu, c'est un bon jeune, il travaille bien, c'est un meilleur ouvrier de France à menuiserie, mais on va quand même le jarter du territoire français, parce qu'il a eu le malheur de pas être né sur le territoire. Voilà, ça c'est toujours pas, c'est pas les bizarres administratives, c'est quand même la volonté de l'État français, un État avec une politique largement anti-immigrée, largement raciste, qui fait de l'immigration un problème, alors que nous on n'y voit pas du tout un problème, mais un apport et peut-être même une richesse et des échanges possibles. Voilà, on espère que Alors, Armando, il a déposé un recours au tribunal administratif de Lyon. On espère qu'il va à réussir à faire casser son OQTF et qu'il pourra continuer à étudier et faire la menuiserie, ou tout ce qui l'intéresse d'ailleurs. Hein, il n'est pas obligé de faire la menuiserie s'il veut changer d'avis en France ou ailleurs, hein, s'il veut se déplacer. On finit sur les sans-papiers, ça fera la transition avec la rubrique de tout à l'heure sur la question de les questions internationales. Pour vous signaler, alors, je ne vais pas parler de Calais cette fois-ci, on va vous parler de Armondsworth, c'est en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, il y a aussi des centres de rétention, hein, même si la Grande-Bretagne a un statut particulier dans l'espace Schengen, il y a comme partout dans pas mal de pays des centres de rétention. C'est quoi des centres de rétention? C'est des tôles, hein, des tôles, des prisons où on enferme les immigrés quand on estime qu'on veut pas les régulariser ou leur donner des papiers. Donc il y a 200 détenus du centre d'Armondsworth, et on dit bien détenus dans ce cas-là, hein, qui se préparent à entamer une grève de la faim qui a commencé le 8 mars. Hein, après des manifestations bruyantes, ils ont manifesté pour mettre un terme à, première chose, leur privation de liberté, de droits humains, parce qu'ils sont enfermés, hein. Ce sont des demandeurs d'asile, ils demandent régulièrement des papiers, des titres de séjour en Angleterre, et on les fout dans une tôle. Ils demandent de mettre un terme à l'utilisation de la procédure accélérée pour les détenus, mettre un terme à la partialité et à la compétence du Home Office, ça c'est le ministère qui se charge de ça dans la gestion des dossiers, mettre un terme à aux déportations illégales sous la contrainte, c'est-à-dire que bah oui, c'est un moment l'administration dit allez, on vous éjecte du territoire, mettre un terme aux conditions stressantes et dégradantes qu'ils décrivent comme de la torture mentale et qui conduisent beaucoup d'entre eux et d'entre elles à se mutiler, mettre un terme aux cellules surpeuplées comparables à des d'animaux et mettre un terme au refus de renvoyer ceux qui veulent rentrer dans leur pays d'origine. Donc il y a pas mal, il y a aussi un mouvement en Angleterre des immigrés et de leur soutien pour obtenir l'organisation et le fait que ça puisse se faire en dehors dans des véritables tôles. Je vous rappelle aussi, en France, il y a des tôles qui s'appellent des centres de rétention où sont enfermés des gens sous prétexte qu'ils ont juste voulu faire une demande pour s'installer en France, qu'elle était refusée et qu'en attendant les expulser, pour être sûr qu'ils ne disparaissent pas dans la nature, hein, ils sont enfermés, regroupés avec là, toute la famille, les enfants, etc., dans des véritables prisons quasi inaccessibles. Voilà, il faudra bien mettre fin un jour aux frontières et mettre fin un jour à tous ces barbelés et à toutes ces tôles. Voilà, fin de cette rubrique politique, économique et sociale dans le territoire et géographique de l'Hexagone. On va passer une autre pause musicale, donc c'est très bruyant ce soir, hein. Après le punk de Lille, on va passer du vieil anarcho-punk de Grande-Bretagne, hein, d'ailleurs, ça tombe bien. C'est encore une fois, c'est pas très original, les subhumans, les sous-humains, qui vont chanter en live, donc là, avec un son bien pourri, ça va brailler, etc. C'est très fun. Et une jolie chanson qui s'appelle Don't Wanna Die, je ne veux pas mourir. Die, 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 die.
J'en vois. We'll be right back.
Voilà, vous êtes bien sur le 102.2 de la bande FM à l'écoute de Radio Canu et comme tous les mercredis de 20h à 21h, la formidable émission que vous attendez toute la semaine, Idées Noires, présentée par les camarades militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes qui, je vous rappelle, ont toujours leur librairie au 8 rue d'Hydro où ils vous accueillent le mercredi après-midi et le samedi après-midi à partir de 15h permanence pour consulter des livres, taper un petit peu de causerie avec les camarades et camarades présentes. Et puis là, on va passer à une rubrique très traditionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est la palanquée, le déluge, cette fois-ci, de lutte sociale.
Une rafale. Allez,
la rafale.
C'est d'actualité.
Voilà. C'est d'actualité parce que la France vend des rafales. Voilà, vroom. Allez, on y va.
Allez, on va démarrer, donc, comme tu le disais tout à l'heure, avec des luttes, évidemment, sur les chantiers. Et là, ça concerne la grosse boîte Vinci. C'était le 10 février. Imaginez un petit peu que le retard que j'ai pris pour... vous annoncez toutes ces luttes, eh bien avec chez Vinci, bah, une grève sur plusieurs chantiers à Paris, Nanterre et HR dans le 78, qui a atteint une ampleur jamais vue à Vinci, selon la CGT. Près de 600 travailleurs CDI, hein, en contrat de durée indéterminée, et plus des intérimaires également qui se sont joints. La colère est venue quand la direction Vinci, qui pèse quand même 2,5 milliards nets en 2014, a annoncé 0,3 à 0,5% de mieux sur les salaires, enfin de mieux si on peut dire, pour les salariés. 2% ont été finalement obtenus par l'intersyndicale. Précision également, c'est que Vinci touche le CICE à une hauteur de 82 millions d'euros.
Ouais, alors le crédit d'emploi, non, crédit innovation, je ne sais plus quoi, c'est encore un des cadeaux patronaux. Donc, à chaque
pour
fois.
Pour l'emploi, c'est pour l'emploi et la compétitivité.
La compétitivité, à chaque fois, ça, c'est ce que balance le gouvernement dit socialiste, enfin voilà, c'est que c'est une mesure incitative. Donc, les entreprises payeraient moins d'impôts sur les bénéfices qu'elles font, hein, une partie de l'impôt, parce que comme une personne, elles ont des revenus, donc elles paient l'impôt sur revenus. Il y aurait une déduction d'impôt en échange de la promesse que peut-être un jour elles embaucheraient. Évidemment, il n'y a pas de contrepartie ni de contrôle. Donc en fait, les entreprises, c'est près de 20 milliards hein, ce cadeau-là, empochent la thune. Et puis surtout, ça fait du cash hein, dans leur poche. Et ça fait évidemment du budget en moins pour l'État. Et donc des budgets pour les services publics en baisse. Hein.
Voilà. Donc on va continuer avec une autre grosse bête, j'ai nommé, ou pour pas la nommer, c'est Carrefour, et ses markets, et des mouvements de grève les vendredis, les samedis et les dimanches. C'est un appel donc de l'intersyndicale pour faire front au silence radio de la direction sur les NAO. Les NAO, c'est les fameuses obligatoires. Enfin, les
négociations annuelles obligatoires.
Négociations,
tous les ans,
j'avais oublié un peu, pourtant je l'ai répété mille fois.
Voilà, il faut négocier, notamment les salaires.
Et il y a eu donc un rassemblement le 20 février au siège de Boulogne-Billancourt, devant donc le siège social de Carrefour. Une autre grosse bête encore, c'est Thalès. Hein, on sait ce qu'ils fabriquent chez Thalès, mais enfin, il y a eu un arrêt de travail pour des milliers de salariés. Une manifestation à l'appel des syndicats, c'était le 12 février, au siège également à Paris. 600 personnes et sur divers sites Thalès également. Revalorisation donc des salaires non satisfaisante. La proposition de la direction est de 1,8% en moyenne et l'exigence entre guillemets des salariés est de 5%. Idem chez ADP. ADP, c'est les aéroports de Paris. Menace de grève. Enfin, il y avait des menaces de grève de 24 heures. C'était le 11 février. Donc, signe de perturbation dans les départs et vols. C'est dans les départs et vols, oui. C'est 0,9% de mieux. Donc, les salariés ne sont pas gourmands ici. C'est juste l'inflation. Tout juste pour couvrir l'inflation. Par contre, les actionnaires se sont morfalés, eux, 60% des bénéfices nets. 400 participants et participantes à la grève de 24 heures et également de nouveau mobilisés le 19 février et redénoncer donc les falsifications de la direction sur les chiffres, les dividendes et autres largesses accordées aux actionnaires. 1 milliard d'euros depuis 2006 selon la CGT, la CGC, FO, UNSA qui maintient donc leurs revendications pour une augmentation générale et significative. Roissy en France, c'est Charles de Gaulle, donc l'aéroport international. Une grève des avitailleurs, hein, ça n'a rien à voir avec l'aviculture, hein, je précise. Ce sont les travailleurs qui approvisionnent en carburant les gros navires des compagnies. Alors, mouvement également ici de 24 heures dans les sociétés FAS, Flying Aviation Service, et GPA, deux entreprises sous la coupe des compagnies pétrolières. 100% de participation à la grève pour la, donc la première société, 50%. Donc de participation, et pour l'autre, ben 50% pour l'autre, 100% pour la première, contre un immobilisme des salaires. Alors il dénonce également l'augmentation des charges et des amplitudes de travail, le recours massif à l'intérim exige une augmentation générale à 3% avec un plancher à 60 euros et une prime à 800 euros. Inquiétude également pour les 2300 salariés de Veralia, qui est une filiale de Saint-Gobain, en lutte pour préserver leur emploi sur les sites en France. La direction a en effet, en décembre 2014, émis le besoin de céder la filiale d'ici l'été 2015. Alors plusieurs requins sont sur les dents, évidemment, sont des fonds d'investissement, tous azimuts. La poire est juteuse et les ouvriers verriers ne veulent pas être pris pour des poires et défendent leur gagne-pain tel un fleuron de la verrerie française. Vu les loustiques qui s'affichent à la reprise, eh ben, il n'y a plus de doute sur l'intérêt de la rentabilité et nique les emplois. L'intersyndicale exige que Saint-Gobain reste l'actionnaire principal, qu'il n'y ait pas de vente à la découpe et le maintien du siège social en France. Une répression syndicale maintenant pour 9 voire 10 salariés, ça dépend des sources, enfin des ex-salariés de Goodyear à Amiens. C'était le 17 février. Les 9 se sont retrouvés en garde à vue au commissariat d'Amiens. Alors les reproches, eh bien c'est alors que l'accord de fin de conflit du 23 janvier 14 prévoyait le renoncement à toute poursuite judiciaire ou disciplinaire, bah, il est reproché aux 9 ou aux 10, dont des délégués CGT, une séquestration en janvier 2014 de deux cadres pendant 30 heures. La direction de Goodyear Dunlop nie avoir porté plainte, mais selon la CGT, la direction aurait fait pression sur les deux cadres pour le maintien de cette plainte, camouflant ainsi une plainte de la direction par une action individuelle des deux cadres. La CGT dénonce cette manœuvre de la direction dont le but est de maintenir la pression sur le syndicat qui lutte toujours pour la durée du congé de reclassement et la possibilité d'une reprise par une reprise évidemment de la production par les salariés eux-mêmes. À Sainte-Cécile maintenant, c'est dans la Manche. Alors c'est dans la Manche, hein, je précise, mais pas dans la poche pour l'abattoir AIM et surtout pour les salariés. Ils sont 400 postes qui devraient être abattus. 118 postes à Sainte-Cécile seraient peut-être conservé sur 600 par les 4 offres de reprise selon le tribunal de commerce de Coutances. Les salariés se sont illico mis en grève, site bloqué en protestation. L'intersyndicale dénonce la mauvaise gestion. Pour la direction, c'est la faute des autres. Là, les autres, hein, toujours les autres, les grandes distributions, la guerre des prix, la concurrence, les Allemands, les Espagnols, les Bakou, les Cuba, l'embargo russe, Poutine, enfin bref, tout le monde y passe. C'est le porc de l'angoisse. Et finalement, aux alentours du 24 février, un des repreneurs se désistait. Reste deux à cette date pour Sainte-Cécile et Entrain en Ille-et-Vilaine. 179 salariés seraient peut-être repris. Une offre également pour 71 et ou 107 repris à Entrain. Les sites de l'heure sont nus de propositions. Le 26 février, une manif à 150 personnes au ministère de l'Agriculture à Paris, où une table ronde décidait du sort des salariés. À Paris, dans le 13e arrondissement, toujours dans l'alimentation, avec une grève qui a pris fin donc le jeudi 19 février chez Tang Frères, qui est une chaîne de magasins d'alimentation et de produits asiatiques. 420 employés, dont 20 seulement, 20 rebelles qui ont pris la grève à leur charge et pour les 400 autres collègues et ont vaincu donc le dragon patronal. Leur revendication pour eux et elles et les autres, eh bien, c'est une reconnaissance de l'ancienneté, une augmentation générale à 3%, le respect de la réglementation du travail. La direction s'y est engagée, mais attention, en deux cycles, c'est-à-dire en deux fois, fin mars et début mai. Alors, aux dernières nouvelles, les frères Tang n'ont pas fait harakiri et on leur en demandait pas tant, de toute façon. Hein. Alors, grève également dans les TGV, mais là, il ne s'agit pas des cheminots et des cheminotes. C'était le 20 février avec une grève qui nous vient des employés d'un prestataire de la SNCF qui gère les wagons-bars des TGV, la société New Rest Wagon Lee Elior. Grève qui a perturbé, évidemment, qui a perduré pardon, le week-end car la direction s'est endormie sur le morceau. Alors, le morceau lancé par l'intersyndicale est lourd à digérer pour la direction, puisqu'il concerne la pénibilité due au planning, le sous-effectif, les accidents du travail en hausse, les salaires minables et l'intégration au sein de... Et ce qu'ils souhaitent, évidemment, ce qu'ils exigent, c'est l'intégration au sein de la SNCF, intégration, évidemment, du personnel, pour le bien de celle-ci, rendez-vous compte, c'est le personnel lui-même qui prend soin de la SNCF et 80 à 85% de participation, donc, à ce mouvement. Je continue par plus fort et plus... À Cambrai, Cambrai, tout le monde sait que c'est dans le Nord, évidemment. Là, une autre verrerie en difficulté, c'est la verrerie de Manière. Une grosse mobilisation, grève, manifestation, occupation des voies d'accès devant la préfecture. C'était le 23 février. Alors, verrerie qui est en difficulté, disais-je, avec un redressement judiciaire sur le dos. 500 emplois directs, autant en indirect, donc chez les sous-traitants. Se sont joints des habitants et des habitantes, un collectif de salariés également. Là aussi, des offres de reprise sont étudiées. La verrerie appartient au groupe Stolz, qui pratique bien sûr le chantage et qui menace de fermer si les salariés n'acceptent pas le projet de rachat, l'augmentation du temps de travail, la remise en cause des acquis sociaux et la fermeture d'un four et 120 suppressions de postes. C'est du chantage, c'est du chantage. Alors, conflit postal, maintenant, on sait que la Poste est bien en difficulté en ce moment, enfin, du moins les employés, les facteurs, les factrices. Conflit postal, c'est en Basse-Normandie, c'est le 24 février. Tous les bureaux et les autres centres en un mouvement de grève historique selon, qui vous savez, hein, l'intersyndicale. 1300 personnes ont répondu selon l'intersyndicale. 900 selon qui vous savez aussi, donc la direction. Alors, conditions de travail ici, bien sûr, mises en cause. La grève est illimitée et votée en assemblée générale, tous les jours. En Franche-Comté aussi, donc du côté de Valdaon cette fois, de Mèche, et là c'est mené par Sud PTT. Alors, conditions de travail toujours, hein, 60% de participation, et cela dans plusieurs villes de Franche-Comté. À Mauzac, au Midi-Pyrénées, et c'est une grève chez Midi-Pyrénées Granula. Tous les sites concernés du groupe Lafarge contre un projet qui rendrait obligatoire la mobilité en France, là où il y a Lafarge et consorts, sans mot dire, casse du caillou là où je veux, autrement dit. Conflit pététiste toujours, j'entends par là dans les PTT, bien entendu, dans l'Orne cette fois, avec un tiers des facteurs et des factrices ici qui ont suivi le mot d'ordre avec une poursuite de la grève le 26 février, et elle continue tant que la pause repas qui a été ramenée à 45 minutes sera le projet de la direction. Par contre, à Valdaon, en Franche-Comté, le 26-02, la grève était toujours d'actualité. Tandis que chez Sanofi à Sisteron, là, on quitte bien sûr la poste pour Sanofi, autre grand mouvement de grève. Sanofi à Sisteron, les salariés ont obtenu 80 euros. Donc, c'est une prime de poste donc, qu'ils ont obtenue, donc une grève gagnée. La lutte continue aussi chez Eramet au Havre, c'était au 26-02. Plus de la moitié de l'effectif sur le front avec la CGT et la CFDT. La production est arrêtée. On fait là du raffinage de nickel. Ici, les salaires sont le ferment de la grève, qui est raffinée, donc nickel. À Marolles, en Urpois, maintenant c'est dans le 91, avec le 26 février, les Carrefour Market, toujours en effervescence, 20 salariés de la CGT en colère pour une augmentation salariale. L'amélioration des conditions de travail, on retrouve toujours les mêmes choses, les mêmes revendications. Alors, ils dénoncent également ici une grosse différence de statut avec les hypermarchés Carrefour, les avantages, enfin tout et tout. Saint-Amand-les-Eaux, grève de solidarité pour deux salariés inquiétés par une mise à pied chez Outinor. 95% des ouvriers ont participé à une marche opération Escargot dans la zone industrielle commerciale jusqu'au Buffalo Grill qui a aussi des problèmes et qui est dans le même giron que Outinor, à savoir le groupe Abenex. Alors Outinor fabrique du matériel pour les chantiers, des banches, des barrières de protection, des coffrages. Alors tandis que chez Abenex, c'est une société Abenex Capital, vous avez compris, c'est un fonds d'investissement qui intervient dans tous les secteurs d'activité, dans les entreprises non cotées, pour des projets de développement, autrement dit, on achète, on vire, on rentabilise sur le dos des ouvriers et on vend et ainsi de suite. Quand maintenant, donc la biscuiterie Jeannette nous et vous informe de la création de la SAS Jeannette 1850. Oui, parce qu'elle a été créée en 1850. J'avais fait un petit tableau la semaine dernière. Donc c'est une société qui a été créée, une société à action simplifiée, SAS. La production reprendra avec 14 employés après avoir trouvé, bien sûr, des locaux et des outils pour travailler parce qu'on leur a tout piqué. Et 700 000 euros de plus par actionnariat participatif. Alors la mise à prix, je vous l'annonce, c'est 300 euros. Voilà, tout ça, c'est intervenu après 344 jours de grève à la biscuiterie Jeannette. Et puis pour terminer, on passera du côté du Lot-et-Garonne avec la ville de Fumel. Fonderie, là il s'agit d'une fonderie qui est occupée, Metal Temple, fondeur occupant parce que en colère sur la disparition de 136 emplois par décision du tribunal de commerce de Chambéry. Une reprise a été enregistrée pour 29 emplois conservés. La fonderie est occupée jour et nuit depuis la mi-février. Une machine a été ceinturé de bouteilles de gaz. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi donc le tribunal de Chambéry ? C'est que le proprio, c'est tout simple, c'est le proprio actionnaire qui est le groupe Grande Pierre au Cola, qui est actionnaire, enfin, est propriétaire depuis 2009 et basé à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais la lutte continue, les grévistes fondeurs et la CGT ont des propositions qui n'ont pas été appréciées à leur juste valeur par le tribunal de commerce. Donc, là aussi, c'est la colère.
Voilà. Et puis, on va finir par l'information. Le scoop local, toujours dans les luttes, c'est la victoire, on nous l'a annoncé, du mouvement des vacataires à Lyon 2. Donc, les vacataires, c'est des enseignants non titulaires. En général, ce sont des gens qui sont en thèse. Et à l'université Lyon 2, ils n'avaient pas de contrat de travail et ils n'étaient pas payés. Du coup, ils n'avaient pas de contrat de travail, donc pas de salaire. Depuis la rentrée universitaire, et en plus ils devaient payer eux-mêmes leurs frais d'inscription universitaire. Donc là, finalement, les négociations ont été entamées et avec succès après des semaines de lutte, une occupation aujourd'hui de la fac. La présidence a fini par céder. Oui, elle va finalement faire le minimum qu'elle aurait dû faire depuis septembre, c'est-à-dire signer les contrats de travail des gens qu'elle emploie. les payer sur la base de leur contrat de travail, enfin, avec évidemment rétroaction des salaires non payés. Elle va aussi rembourser une partie des frais d'inscription, en tout cas la partie pédagogique, hein, donc 400 euros pour chacun des vacataires qui va lui être remboursé sur ce qu'ils avaient dû dépenser, parce que pour être à l'université, pour étudier, il faut débourser des frais. Mais là, c'est remboursé par la présidence, ce qui est normal après tout. Hein, t'es employé, c'est pas toi qui vas payer ton patron pour la gloire, la juste gloire d'être exploité. Et des négociations sont aussi en cours sur d'autres points, hein, d'autres revendications de ces vacataires, de ces enseignants, jeunes enseignants, vacataires d'universitaires. Donc une victoire de la lutte dans cette université à Lyon 2. J'espère qu'elle donnera aussi un peu d'idées aux vacataires dans les mêmes situations, hein, dans les autres universités. On peut penser à Montpellier ou à d'autres. La situation lyonnaise n'est malheureusement pas unique en son genre. On va peut-être passer une pause musicale.
Je
ou,
te propose de continuer on va la continuer internationale.
Dans la lancée, allez, l'internationale, parce qu'il ne reste que 6 minutes. Ouais. Et ben, on va parler d'une grève, oh là là, une grève historique, une grève, le plus grand mouvement social dans le secteur depuis 35 ans. Quel secteur? Le secteur des raffineries aux États-Unis. Nous, on a eu notre grève des raffineries, hein, je vous rappelle.
Raffinerie de pétrole.
Raffinerie de pétrole, évidemment. On va voir
des raffineries de sucre.
Non, oui. Et on parle aussi des raffineries de sucre et des salariés des coupeurs de canne à sucre. Et là, c'est évidemment, quand on pense États-Unis pétrole, on pense à quel état on pense? Au Texas, à Houston, et la grosse entreprise, la Shell Oil, hein, c'est la Shell, hein, la fameuse Shell, filiale évidemment de la compagnie à l'origine britannique, hein, mais bon, on sait que la plupart de ces compagnies transnationales, elles ont des sièges un peu partout, elles sont plus localisées où que ce soit, c'est pour faire de l'optimisation fiscale, comme on dit en France, c'est-à-dire de la fuite de capitaux. Et il y a donc, ça fait 35 ans qu'il n'y avait pas eu de grève, hein, dans ce secteur-là. Un secteur clé de l'économie, hein. Évidemment, on l'avait vu en France en 2010, quand le secteur des raffineries s'est mis en grève sur la question des retraites. C'était le premier secteur à débaucher, et ça a bloqué l'économie du pays. Malheureusement, le mouvement n'est pas allé à son terme, n'a pas réussi à engranger une victoire, et on a quand même mis 4 millions de personnes dans les rues à l'époque. Donc c'est vraiment un secteur clé. Là, ça fait 5 semaines qu'il y a grève dans le secteur du raffinage, hein, à l'appel de United Steelworkers, hein, l'USW, donc c'est le plus gros syndicat, c'est le premier syndicat industriel nord-américain. Il y a 15 sites, hein, dont 12 raffineries qui sont concernées. Et selon les responsables syndicaux, fin février, il y avait près de 20% des capacités nationales, hein, de l'ensemble des États-Unis qui étaient déjà impactées et touchées par la grève. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. La grève, elle porte sur quoi? Elle porte sur la renégociation des conventions collectives entre le syndicat industriel et la compagnie Shell Oil, avec quatre dossiers à l'intérieur. Évidemment, les salaires, ça c'est toujours la base de toutes les négociations, c'est toujours la revendication salariale. Les soins médicaux, donc le système de santé, parce qu'il n'y a pas de système de santé comme en France, tout est pris en charge en général à travers la convention collective. Et en général, géré par le syndicat, c'est auprès d'un prestataire privé, etc. Enfin, les choses sont un peu largement différentes aux États-Unis. Et le retour aux contractuels et aux intérimaires, hein, comme main d'œuvre pour casser les salaires, hein, évidemment, parce que ça compte toujours les statuts, et la fatigue, la pénibilité du travail. Notamment, il y a ça à choc, parce qu'il y a renégociation, donc évidemment, le patronat, les patrons de la Shell Oil essaient de tirer, ils essaient de faire sauter la clause, une clause qui a toujours existé dans les conventions collectives, en tout cas, du secteur raffinerie, qui est la clause « no retrogression », regression, c'est-à-dire de non-régression, qui suppose que lorsqu'on renégocie quelque chose, quand on fait un amendement à convention collective, on ne peut pas faire quelque chose qui aille en dessous de la situation antérieure. En gros, on ne peut pas
supprimer. C'est pareil en France.
Voilà, c'est pareil en France, sauf que ça a changé avec l'ANI, où on peut maintenant, dans une boîte, négocier des choses qui sont en dessous des conventions collectives. Ça, c'est l'un des buts, grands buts du patronat. Donc, cette clause no retrogression, de non-régression, qui a toujours existé depuis des décennies dans les contrats et les conventions collectives, c'est ça que cherche à attaquer la chaîne. Oh, évidemment, parce que après, si tu fais sauter ça, au moment où tu renégocies encore une fois la convention collective, bah, tu peux proposer des choses qui ont largement en dessous, voire même retirer des droits acquis. Donc c'est quand même une lutte fondamentale pour la préservation des droits des travailleurs et des travailleuses, majoritairement des travailleurs. Hein. Les 7000 travailleurs en grève, hein, 15 sites touchés, 7000 travailleurs en grève depuis maintenant plus de 5 semaines, mouvement massif. Il y a des chances que ça cède en face. Les négociations devaient reprendre lundi la semaine dernière à Houston, Houston, Texas, capitale de l'État.
Ici Houston.
Voilà, ici Houston. Donc voilà, donc on espère évidemment que les 3800 grévistes vont obtenir satisfaction et qui pourront renégocier à la hausse, sans régression, leur convention collective. On continue toujours dans le secteur pétrolier et assimilé. C'est Insala, c'est en Algérie. Alors là, c'est baston, émeute autour de la question du gaz de schiste. Évidemment, parce que le gaz de schiste, on en parle aux États-Unis, au Canada, parce que dans le continent américain, c'est le nouveau gisement. On sait que les réserves s'épuisent.
Même qu'ils sont en train de se casser la gueule un peu.
C'est en train de se casser la gueule. Mais selon les études internationales, il faut savoir que l'Algérie possède les quatrièmes réserves mondiales récupérables de gaz de schiste après les États-Unis, la Chine et l'Argentine. Donc évidemment, il y a une entreprise qui est sur le coup, qui est le groupe pétrolier public, d'État public algérien, Sonatrach, qui a fait annoncer fin décembre qu'il avait effectué avec succès son premier forage test pilote dans la région d'Insala, et ça a déclenché les foudres des habitants d'Insala. C'est dans le Sahara algérien, dans le sud de l'Algérie, qui sont évidemment extrêmement inquiets des conséquences de ces forages. C'est la technique, elle est quand même assez compliquée.
C'est
fracturation hydraulique, et c'est avec une capacité de pollution, mais qui est assez
On y rejoint des produits chimiques.
On y rejoint des produits chimiques, c'est assez atroce. Les populations sont inquiètes des conséquences de ces forages sur leur environnement et l'environnement global. Donc il y a des mouvements en Algérie, dans le sud du Sahara. Et là, c'était une quarantaine. Alors c'est info AFP, donc on ne saura jamais, évidemment, parce que info AFP, ça veut dire info du gouvernement algérien, qui se plaint d'avoir 40 policiers blessés, oh là là, dont deux grièvement atteints. Malheureusement, on nous parle pas de les manifestants, combien ont été arrêtés, combien sont faits tabasser, etc., etc. Voilà. Donc, en tout cas, il y a des mouvements de résistance sur cette question-là du gaz de schiste dont on entend beaucoup parler, y compris en France, même s'il y a un gel. Mais on sait très bien que les compagnies pétrolières poussent derrière pour être sûr que ce soit développé un jour. Il y a des luttes partout dans le monde, et il y a cette lutte aussi en Algérie. Rappel, quatrième réserve mondiale de gaz de schiste. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le gaz, il y reste bien, et qu'on n'essaie pas de l'extraire en polluant tout, et puis que ces manifestants, ces habitants du sud algérien puissent vivre décemment, correctement, sans avoir un environnement totalement pourri et pollué. Tout ça pourquoi engraisser des patrons, même si ici ce sont des patrons d'État, c'est un groupe public, donc c'est des hauts fonctionnaires largement, grassement payés, qui se comportent comme n'importe quel type de patron voyou. Voilà, c'était la fin de cette rubrique internationale. Je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller un petit peu sur Internet, vous pourrez aller voir L'intéressant, alors c'est je vous envoie pas sur Rébellion cette fois-ci, ni sur les nombreux clones qui se développent de Rébellion. Je le dis sans me moquer, hein, je trouve ça très bien qu'il y ait des sites qui se développent. Vous pourrez aller sur le site Bastamag, vous tapez ça, hein, c'est un site qui notamment s'intéresse à des analyses économiques et aussi écologiques, mais pas que. Il y a deux articles intéressants, un sur une analyse sur l'Allemagne. L'Allemagne, le modèle qu'on nous balance sans arrêt économique, on va vous rappeler qu'il y a 10 fois plus de pauvres en Allemagne qu'en France. Bravo la réussite économique allemande, notamment de travailleurs et de travailleuses pauvres. Et un article intéressant sur des lignes de bus à tarifs populaires autogérées par les chauffeurs en Uruguay, avec un détail du fonctionnement, etc. C'est relativement intéressant pour toutes celles et ceux, comme nous, qui s'intéressent à l'autogestion concrète et à comment on peut reprendre en main l'outil de travail pour le développer, non pas pour engraisser les patrons, mais pour notre propre bénéfice et le bénéfice des usagers et usagères. Voilà.
Bien, rappel, juste petit rappel d'une annonce faite en début d'émission pour nous. Donc, la CGA, on vous propose une projection discussion autour du film No à la librairie autogérée, donc La Plume Noire, 8 rue Diderot à Lyon, dans le 1er arrondissement, ce samedi 14 mars à 15h. L'entrée est à prix libre. Pour plus d'infos, je ne vais pas refaire ce que j'ai dit tout à l'heure.
En gros, c'est sur la fin de la dictature de Pinochet en Chili.
Voilà. Donc, je ne sais pas si ça lui fait la peau, mais enfin, je ne crois pas. Quoi. Il est mort dans son lit.
Il est mort dans son lit. Hein.
Gentiment,
tout à
en 2004,
fait.
Je crois.
C'est
enfin,
ça.
Bon. Ouais, voilà. Donc, mais si vous voulez avoir plus d'infos sur le contenu de ce film, eh bien, vous allez sur le site CGA Lyon en minuscule tout attaché. Ouvaton.org. CGA Lyon.ouvaton.org. Et vous aurez tout et tout. Voilà. Et sur nous, avoir le plaisir de nous retrouver ce samedi 14 mars à La Plume Noire, 8 rue Diderot, à Lyon, dans le 1er arrondissement. On compte sur vous. Allez, on vous dit à mercredi prochain avec l'autre équipe qui viendra donc nous donner leur avis sur la...
Il faudra causer également, comme on a causé avec vous ce soir, voilà.
On en profite un peu parce qu'il n'y a pas la lumière du frigo, là, juste derrière nous. Donc voilà, on a fait un petit peu de radio, on s'en excuse auprès de Radio Canu et tout. Et bien, on vous dit bonsoir et à mercredi.